Le Vampire, de John William Polidori. Adaptation, Pierre Sange.
Au milieu des dissipations qui accompagnent un hiver londonien, l'on vit un jour apparaître, dans les diverses soirées offertes par ceux qui donnent le ton, un membre de la noblesse qui se distinguait davantage par ses singularités que par son rang. Il contemplait les réjouissances qui l'entouraient comme s'il n'y pouvait point participer. On eût dit qu'il ne prêtait attention au rire et à la légèreté des belles personnes que pour les mieux étouffer d'un regard. Et pour remplir de peur, ses poitrines où régnait l'insouciance. Ceux qui ressentaient cette impression de crainte ne pouvaient en expliquer l'origine. Certains l'attribuaient à l'œil gris et mort qui, se fixant sur le visage de quelque sujet, ne semblait point le pénétrer ni percer d'un regard les mécanismes intérieurs de son cœur. Sur la joue qu'il contemplait, cet œil laissait choir un rayon plombé qui pesait sur la peau sans la pouvoir traverser. Ces particularités lui valaient d'être invité partout. Chacun voulait le voir, et ceux qui étaient habitués à de violentes excitations et qui en étaient venus à ressentir le poids de l'ennui, avaient plaisir à se trouver en présence d'un objet capable de retenir leur attention. Bien que son visage eût une carnation de mort, et que ni la rougeur de la pudeur, ni la vive émotion de la passion ne lui conférassent jamais une teinte plus chaleureuse, alors même que la forme et les linéaments de ce visage n'étaient pas dépourvus de beauté, nombre de femmes éprises de notoriété tenter de capter son intérêt et d'obtenir au moins quelques témoignages de ce qu'elles eussent pu qualifier d'affection.
Quelle allure étonnante, monsieur. Monsieur ? Mais pardon, vous ne me connaissez pas, pas encore. Cela viendra. Laissez-moi me présenter. Lady Mercer. Vous cultivez le mystère. Dans une ville comme Londres, où tout le monde sait tout sur tout le monde, c'est une marque de prudence, et cela tient de l'exploit. Je n'ai jamais vu des yeux gris de la sorte. Vous êtes scandinave ?
Non.
Ah non ? Vous êtes russe ?
Non.
Vous êtes écossais ?
Non.
Je sais, vous êtes laconique. Ou bien vous venez de l'île de Man ? Le pays où les hommes ont trois jambes et les chats n'ont pas de queue.
Non plus.
Vous avez raison. Gardez le mystère de vos origines. Après tout, peu importe d'où l'on vient, l'important est de savoir où l'on se dirige. Et tenez par exemple ce soir, dans quelle direction comptez-vous aller ?
En direction du buffet, où je vais me resservir de ce vin délicieux.
Mon Dieu ! Comment peut-on être aussi séduisant et aussi mufle ?
Si cette femme adultère, cette créature, ne pouvait pas même influer sur la façon dont il dirigeait son regard, ce n'était point que le sexe féminin lui fût indifférent. Il faisait pourtant preuve de tant de circonspection apparente en s'adressant à l'épouse vertueuse ou à la fille innocente que peu de gens savaient qu'il aborda jamais des femmes. Il n'en avait pas moins la réputation de séduire par la parole. Et soit que cette éloquence alla jusqu'à l'emporter sur la frayeur qu'inspirait son caractère singulier, soit qu'elle fût émue par la haine dont il semblait faire montre à l'égard du vice, on ne le voyait pas moins auprès des femmes dont les vertus domestiques font l'honneur de leur sexe qu'auprès de celles qui le déshonorent par leur vice. C'est à peu près à cette époque qu'arriva à Londres un jeune homme de bonne famille du nom d'Aubrey. C'était un orphelin que ses parents, morts tandis qu'il était encore enfant, avaient laissé avec son unique sœur en possession de grandes richesses. Ce n'était pas tout. Ses tuteurs l'avaient abandonné à lui-même et, pensant que leur seul devoir était de s'occuper de sa fortune, ils se dessaisissaient sur des subalternes mercenaires de la charge de veiller au développement de son esprit. Aussi, Aubrey cultivait-il davantage son imagination que son jugement. Il était par là même animé de ces conceptions hautement romantiques qui exaltent l'honneur et la sincérité et causent chaque jour la disgrâce de tant d'apprentis modistes. Il croyait que tout le monde entrait en sympathie avec la vertu, et il pensait que, si la Providence faisait intervenir le vice, ce n'était qu'afin de rendre la scène pittoresque, comme on le voit dans les romans. Pour lui, la misère d'une chaumière se réduisait à ce que les personnages fussent vêtus d'habits qui, s'ils n'étaient pas moins chauds, convenaient mieux à l'œil du peintre, en raison de l'irrégularité de leurs plis et de l'ajout de pièces de tissu aux multiples couleurs. En un mot, il voyait dans les rêves des poètes la réalité de la vie. Il était beau, franc et fortuné. Pour toutes ces raisons, lorsqu'il faisait son entrée en quelque joyeuse société, bien des mères l'entouraient. C'était alors à qui décrirait, avec le moins d'honnêteté, leur fille en train de se languir ou de s'ébattre, et dont les visages qui s'illuminaient à son approche l'encouragèrent bientôt à se méprendre sur ses talents et sur ses mérites. Attaché qu'il était au climat romanesque des heures qu'il passait en solitaire, Aubray était surpris de voir qu'à l'exception des chandelles de suif et de cire, qui ne tremblotaient point du fait de la présence d'un fantôme, mais faute d'avoir été mouchées, la vie réelle n'offrait pas de fondement à ce ramassis d'images plaisantes contenues dans les livres. Il était sur le point de renoncer à ses rêves lorsque l'être extraordinaire que nous avons décrit ci-dessus croisa sa destinée. Il l'observa. Il était impossible de se faire une idée du caractère d'un homme entièrement renfermé sur lui-même et qui paraissait à peine prendre en considération les objets extérieurs. Aussi, Aubray, laissant aller son imagination, fit-il bientôt de cette personne un héros de roman. Il résolut d'observer ce que sa fantaisie avait créé plutôt que l'individu qui se tenait devant lui. Il fit sa connaissance, lui témoigna bien des égards et se fit remarquer de lui en toute occasion. Il apprit petit à petit que les affaires de Lord Ruthven étaient embrouillées et il découvrit bientôt qu'il était sur le point de partir en voyage. Souhaitant glaner quelques renseignements au sujet de ce singulier personnage, il donna à entendre à ses tuteurs qu'il était temps pour lui d'accomplir ce périple dont on croit depuis des générations qu'il est nécessaire aux jeunes gens pour faire de rapides progrès dans la carrière du vice, devenir les égaux des vieillards et n'avoir point l'air de tomber des nues chaque fois que l'on parle d'intrigues scandaleuses, fût-ce pour en plaisanter ou pour les louer, selon le degré d'habileté dont on avait fait montre en s'y livrant. Les tuteurs y consentirent. Et Aubray, qui fit part immédiatement de ses intentions à Lord Ruthven, fut surpris que ce dernier lui proposa de se joindre à lui. Flatté de recevoir une telle marque d'estime de la part d'un homme qui n'avait en apparence rien de commun avec les autres, il accepta avec joie, et quelques jours plus tard, ils eurent franchi les eaux qui entourent notre île. Aubray n'avait pas eu jusqu'alors l'occasion d'étudier le caractère de Lord Ruthven. Il découvrit dès cet instant, bien qu'il le vit agir en des circonstances beaucoup plus diverses, que ses observations se traduisaient par d'autres conclusions que celles que l'on pouvait déduire des motifs apparents de sa conduite. Son compagnon était généreux à profusion. L'oisif, le vagabond et le mendiant recevaient de sa main plus qu'il n'en fallait pour soulager leurs besoins immédiats. Mais Aubray ne pouvait s'empêcher de remarquer que ce n'était pas au vertueux, réduit à l'indigence par les infortunes qui n'épargnent pas même la vertu, qu'il faisait l'aumône. Cela se voyait chassé de sa porte avec des ricanements à peine dissimulés. En revanche, lorsque le débauché venait quémander, non point pour soulager ses besoins, mais afin de pouvoir se vautrer dans la concupiscence ou s'enfoncer plus profondément encore dans l'iniquité, il repartait enrichi par les dons de Ruthven. À Bruxelles et dans les autres villes par lesquelles ils passèrent, Aubray fut surpris de l'empressement que mettait son compagnon à rechercher les lieux où régnaient toutes les formes de vice à la mode. Il y épousait pleinement l'esprit qui règne à la table de jeu. Il pariait et jouait toujours avec succès, sauf lorsqu'il avait en face de lui un tricheur notoire. Il perdait alors plus encore qu'il ne gagnait, mais c'était toujours avec le même visage immuable dont il avait l'habitude d'observer les gens alentour. Lorsqu'il rencontrait un novice téméraire et juvénile, cette apparente indifférence le quittait. Ses yeux étincelaient d'un feu plus vif que ceux du chat en train de jouer avec une souris à demi morte. Dans chaque ville, il laissait derrière lui une victime maudissant dans la solitude d'un cachot le sort qui l'avait attiré à la portée de ce démon. Pourtant, il n'emportait point d'argent lorsqu'il quittait la table de jeu. car il reperdait aussitôt, au bénéfice de celui qui pourrait à son tour ruiner bien des gens, le dernier florin à peine extorqué à l'être innocent qui s'y accrochait d'un geste convulsif. Dans son comportement, Lord Ruthven, au milieu des divers spectacles riches et sauvages de la nature, était toujours le même. Son œil parlait moins encore que ses lèvres. Et, bien qu'Aubrey fût proche de l'objet de sa curiosité, il n'en obtenait pour toute récompense que l'excitation constante due à son vain désir de percer ce mystère qui, pour son imagination exaltée, commençait à prendre l'apparence d'un phénomène surnaturel. Ils arrivèrent bientôt à Rome. Tandis que Lord Ruthven fréquentait chaque jour le cercle qui se tenait le matin chez une comtesse italienne, Aubrey visitait les ruines alentour. Des lettres arrivèrent d'Angleterre, et il les ouvrit avec une vive impatience. La première venait de sa sœur, où l'on ne sentait que le souffle de l'affection. Les autres venaient de ses tuteurs, et celles-ci le plongèrent dans l'étonnement. S'il lui était auparavant venu à l'esprit que quelque puissance maléfique habitait son compagnon, ses lettres semblaient avoir de quoi l'en convaincre. Ses tuteurs insistaient pour qu'il quittât sur le champ son ami et alléguaient que ce dernier était d'un naturel dépravé, car comme il possédait une irrésistible capacité de séduction, ses habitudes licencieuses n'en étaient que plus dangereuses pour la société.
Entrez, Aubrey. Entrez. Quelle lumière superbe ce matin, n'est-ce pas? Quel bon vent vous amène? Vous avez l'air maussade. Quelque chose vous préoccupe?
On ne peut rien vous cacher.
Je vous écoute. Votre chambre n'est pas à votre goût.
Il s'agit d'autre chose. Vous m'avez accepté comme compagnon de voyage.
Et je n'ai qu'à m'en réjouir.
Depuis le début de notre périple, j'ai eu l'occasion de vous observer.
Aurais-je été désobligeant à votre égard, sans m'en rendre compte?
Non, bien sûr que non. Mais je dois avouer, je ne comprends pas toujours votre manière d'agir.
Vous m'intriguez.
Je ne comprends pas toujours la manière dont vous vous comportez dans certaines circonstances.
Je suis d'avis que chaque homme sur cette terre est libre d'agir comme bon lui semble selon les principes qu'il considère les plus justes.
Mais, par exemple, il y a quelques jours, cet homme misérable qui vous a demandé l'aumône...
Eh bien, je l'ai conduit, et alors? Je ne goûte pas beaucoup la misère... Mais je la déteste surtout quand elle se donne des airs de vertu. Je déteste les mendiants honnêtes, les pères de famille éplorés, les vagabonds qui prétendent aller au bain avec la pièce qu'on leur donne.
Je ne comprends pas.
En revanche, si le hasard m'apporte, comme hier, un mendiant particulièrement sale, ivre, obscène et dégoûtant, un homme sans foi ni loi qui promet d'aller convertir aussitôt ma charité en litres de vin ou en prostituée, alors ma générosité est sans limite.
Je comprends encore moins.
Parce que vous vous tenez du côté de la vertu, mon ami. Nous avons traversé Paris, Marseille, Milan, Rome. Bientôt nous serons à Naples. Mais vous n'avez toujours pas quitté Londres. Vous vous tenez toujours debout dans votre chambre de jeune homme et vous vérifiez que votre chemise est bien boutonnée.
Je ne sais que penser de vos paroles.
Eh bien, ne pensez pas.
Comment m'en empêcher? Je pense, par exemple, qu'il est inconvenant de fréquenter la fille de notre hôte comme vous le faites. Quelles sont vos intentions à son égard?
Celles que chacun, à ce que je suppose, nourrirait en pareille circonstance.
Alors, je crois préférable de poursuivre ce voyage en suivant mon propre chemin.
Bien. Soit, si vous le pensez ainsi. Qui sait, la chance fera peut-être en sorte que nos chemins se croisent.
J'en serais surpris.
Moi, pas tant que ça.
Adieu.
Adieu, mon ami. Et choisissez bien votre route.
Ayant quitté Rome, Aubrey se dirigea vers la Grèce. Il se trouva bientôt à Athènes. Il établit alors sa résidence chez un Grec et il s'employa bientôt à retrouver le souvenir flétri d'une antique gloire sur des monuments qui, honteux semblait-il de ne rapporter les actions d'hommes libres que devant des esclaves, s'étaient cachés sous un sol protecteur ou des lichens multicolores. Sous le même toit que lui, vivait une personne si belle et si délicate qu'elle eût pu servir de modèle à un peintre souhaitant représenter la récompense promise aux fidèles du paradis de Mahomet, si ce n'est que ses yeux exprimaient trop d'intelligence pour que l'on pût la croire du nombre des êtres qui n'avaient point d'âme. Quand elle dansait ou parcourait d'un pied léger le flanc de la montagne, on eût dit que la gazelle n'offrait de ses beautés qu'un emblème médiocre. Le pas léger de Yante accompagnait Aubrey lorsqu'il se mettait en quête d'antiquité. La jeune fille, occupée à poursuivre un papillon du Cachemire, révélait souvent toute la beauté de ses formes, comme flottant au gré du vent, à l'œil avide du jeune homme. Il en oubliait aussitôt les lettres qu'il s'efforçait de déchiffrer sur une tablette antique à demi effacée. Tandis que la sylphide voltait de ci de là, ses tresses en retombant montraient aux rayons du soleil des teintes d'un brillant si délicat et si prompt à s'altérer que le jeune historien en venait à négliger l'objet même qui, l'instant d'avant, lui avait paru d'importance capitale pour l'interprétation d'un passage de Pausanias. Aussi, pourquoi tenter de décrire des sortilèges que chacun ressent, mais dont nul ne peut estimer la valeur? Ce n'était qu'affaire d'innocence, de jeunesse et de beauté, que n'avaient pollué ni les réceptions où la foule se presse, ni les bals où l'on étouffe. Cependant qu'il dessinait ces ruines, dont il souhaitait conserver le souvenir pour plus tard, la jeune fille se tenait à côté de lui, à observer l'effet magique de son crayon qui retraçait le décor de son pays natal.
Vous voyez là-bas cet arbre ? C'est le grand mûrier, où est morte Thisbé. Vous vous souvenez de son histoire ?
Je ne l'ai jamais su.
Thisbé et Pyram étaient fous amoureux l'un de l'autre. Un soir, ils se donnèrent rendez-vous là, exactement sous ce figuier. Thisbé arrive en avance, mais elle doit se cacher parce qu'un loup rôde autour de l'arbre, la gueule pleine de sang et les crocs bien visibles. Dans sa fuite, elle laisse tomber son voile. Un peu plus tard, quand Pyram arrive enfin, les hommes sont toujours en retard. Ils trouvent le loup, le sang, le voile de son amoureuse. Bien sûr, le pauvre, il croit qu'elle est morte. Que voulez-vous qu'il fasse d'autre ? Il se suicide.
Ton histoire est terriblement macabre.
Vous n'avez pas entendu la fin. Quand Thisbé sort de sa cachette et découvre le corps de Pyram, elle n'a plus aucun espoir. Elle se donne la mort.
Mais... c'est plus affreux encore.
Oui. Pourtant, le mûrier est tellement beau.
Mais dis-moi, y a-t-il vraiment des loups en Grèce ?
Bien sûr. Des loups, des ours, des chacals.
Charmant pays. Je préfère les papillons.
Il y a aussi des vautours. Et la nuit, on peut voir des chouettes, des chauves-souris et des vampires.
De quelle sorte d'animal s'agit-il ?
Ce n'est pas un animal. C'est un homme. Ou presque un homme. C'est un mort qui ne parvient pas à mourir.
Je ne comprends pas.
Certains hommes ne meurent pas. Il s'agit d'une malédiction. On entend parfois les morts gratter la terre dans leur tombe la nuit. On connaît bien les vampires ici. Les vieillards du village pourraient vous en parler. Un vampire a une apparence normale le jour, à ceci près qu'il a les yeux gris et la peau très blanche et cireuse, comme celle d'un cadavre. Il faut le fuir comme le loup parce qu'il doit constamment s'abreuver du sang des jeunes femmes. Il les saisit au cou et ne les lâche plus jusqu'à ce qu'il ait étanché sa soif.
Décidément, tu aimes les fables morbides.
Mais ce n'est pas une fable. Vous demanderez à mon père, il vous dira, lui. Il en a vu un une fois.
Très bien, je lui poserai la question.
Lorsqu'elle le voyait si incrédule, elle le suppliait de la croire. Car l'on avait observé que ceux qui avaient l'audace de douter de l'existence de ces créatures avaient toujours reçu quelques preuves qui les obligeaient, à leurs dépens, d'avouer que tout cela était vrai. Elle lui narrait avec précision l'aspect que ces monstres revêtaient ordinairement. Et l'horreur du jeune homme s'accroissait d'y entendre une description assez précise de Lord Ruthven. Aubrey commençait à s'attacher de plus en plus à Yante. Tout en tournant en ridicule l'idée qu'un jeune homme élevé à l'anglaise pût épouser une jeune grecque sans instruction, il n'en ressentait pas moins un attachement grandissant envers la figure quasi féerique qui se tenait devant lui. De temps à autre, il s'efforçait de s'arracher à sa compagnie et, formant le projet de quelques recherches archéologiques, il partait, décidé à ne point revenir avant d'avoir atteint son but. Mais jamais il ne pouvait fixer son attention sur les ruines qui l'entouraient, aussi longtemps qu'il gardait à l'esprit une image qui, seule, semblait avoir le droit de gouverner ses pensées. Yante en avait appelé à ses parents au sujet des vampires, et tous deux, en présence de plusieurs personnes, avaient affirmé qu'ils existaient, pâlissant d'horreur à leur seul nom. Peu après, Aubrey décida d'entreprendre l'une de ses excursions qui devait le retenir quelques heures. En entendant citer l'endroit où il se rendait, tous le supplièrent aussitôt de ne pas revenir de nuit, car il lui faudrait nécessairement traverser un bois où jamais aucun Grec, à quelque prix que ce fût, n'accepterait de demeurer une fois le jour tombé. Ils décrivirent ce bois comme le repère où les vampires tenaient leurs orgies nocturnes, et ils proclamèrent que les plus terribles maux menaçaient celui qui oserait croiser leur chemin. Aubrey ne fit guère cas de leur représentation, et il tenta par des plaisanteries de chasser cette idée de leur esprit. Mais lorsqu'il les vit frissonner de surprise devant l'audace avec laquelle il osait se moquer d'une puissance supérieure et infernale dont le seul nom paraissait leur glacer le sang, il garda le silence. Le lendemain matin, Aubrey partit seul pour son excursion. C'est avec surprise qu'il observa le visage mélancolique de son hôte, et il s'inquiéta de voir que ses paroles de la veille, destinées à tourner en dérision la croyance en ces horribles démons, avaient inspiré à ces gens une telle terreur. Tandis qu'il s'apprêtait à partir, Yand s'approcha du flanc de son cheval et le pria ardemment de revenir avant que la nuit ne permette au pouvoir dont ces créatures étaient dotées de se manifester. Ce qu'il promit. Pourtant, quelques heures plus tard, il était à ce point absorbé par sa quête qu'il ne se rendit point compte que la lumière du jour allait bientôt disparaître, ni qu'il y avait à l'horizon l'une de ces taches qui, dans les régions chaudes, grossissent si vite pour former une masse terrifiante et déversent toute leur rage sur la contrée qu'elles ont choisie pour victime. Il finit cependant par monter en selle, décidé à se hâter. Mais il était trop tard. On ne connaît pour ainsi dire pas de crépuscule dans ces régions méridionales. La nuit commence sitôt que le soleil se couche. Il n'avait guère eu le temps d'aller bien loin lorsque toute la puissance de l'orage se manifesta au-dessus de lui. Le tonnerre retentissait presque sans relâche. Une lourde pluie traversait en force le dé du feuillage, tandis que l'éclair semblait tomber à ses pieds et se propager à partir de l'endroit où il se trouvait. Soudain, son cheval prit peur. Et il fut emporté avec une rapidité effrayante au travers de l'enchevêtrement de la forêt. Épuisé, l'animal finit par s'arrêter, et à la lumière de l'éclair, Aubrey se rendit compte qu'il était à proximité d'une masure qui dépassait à peine de l'amas de feuilles mortes et de broussailles dont elle était entourée. Mettant pied à terre, il s'approcha, espérant se faire abriter de l'orage qui se déchaînait. Tandis qu'il s'approchait, le silence momentané du tonnerre lui permit d'entendre les hurlements effrayants d'une femme auxquels se mêlait l'exultation étouffée d'un rire moqueur qui se prolongeait en un son quasi ininterrompu. Il en fut alarmé, mais, stimulé par le tonnerre qui grondait au-dessus de lui, il ouvrit brutalement la porte de la hutte. Il se trouva dans la plus profonde obscurité et se laissa guider par les sons. Il semblait que l'on n'eût point remarqué sa présence. En effet, en dépit de ses appels, les bruits ne cessèrent point et on ne lui prêtait nulle attention. Il sentit qu'il touchait quelqu'un. C'est alors qu'une voix s'écria « Encore déçu ?» Puis ce fut un rire sonore. Il se sentit agrippé par un être dont la force paraissait surhumaine. Résolu à vendre sa vie le plus chèrement possible, il se débattit, mais en vain. On le souleva du sol avant de le lancer par terre avec une force prodigieuse. Son ennemi se jeta sur lui et, appuyant les genoux sur sa poitrine, il venait de lui saisir la gorge à pleine main lorsque l'éclat de nombreux flambeaux pénétrant par l'orifice qui, le jour, laissait passer la lumière, dérangea l'assaillant. Aussitôt, il se releva et, abandonnant sa proie, il franchit la porte précipitamment. Au bout de quelques instants, le craquement que faisaient les branches tandis qu'il se frayait un passage dans le bois cessa de se faire entendre. L'orage s'était désormais calmé, et les hommes du village venus porter secours eurent au fait d'entendre Aubrey, incapable de bouger. Ils entrèrent. La lueur de leurs flambeaux frappa les murs de torchis ainsi que le chaume, dont la moindre brindille était recouverte de lourds flocons de suie. À la demande d'Aubrey, ils se mirent en quête de celle qui l'avait attiré par ses cris. On le laissa donc une fois encore dans l'obscurité. Mais quelle ne fut point son horreur lorsque la lueur des flambeaux l'assaillit de rechef, de distinguer la figure éthérée de sa belle compagne, qui lui apparaissait sous la forme d'un corps sans vie. Il ferma les yeux, espérant que ce n'était là qu'une vision surgie de son imagination dérangée. Lorsqu'il les rouvrit, il revit sa compagne étendue à côté de lui. Il n'y avait plus la moindre couleur sur ses joues, ni même sur ses lèvres. Pourtant, son visage exprimait une paix qui semblait presque aussi attachante que la vie qui naguère y régnait. Il y avait du sang sur son cou et sur sa poitrine. Sa gorge portait les marques des dents qui avaient ouvert la veine. C'est ce signe que les hommes montrèrent du doigt, et ils s'écrièrent en même temps, frappés d'horreur, « Un vampire ! Un vampire !» On fit en hâte une litière et l'on étendit Aubrey à côté de celle qui lui avait récemment inspiré tant de visions brillantes et féeriques, maintenant défaites. Il ne savait point ce qu'il pensait. Son esprit engourdi semblait éviter la réflexion et se réfugier dans la vacuité. Sans en avoir conscience ou presque, il tenait à la main un poignard dépouillé de son fourreau, d'une structure particulière et que l'on avait trouvé dans la hutte. Ils furent bientôt rejoints par divers groupes qui s'étaient mis à la recherche de la jeune fille, dont la mère n'avait point tardé à remarquer l'absence. Leurs cris lamentables, tandis qu'ils approchaient de la ville, annoncèrent aux parents que quelque effrayante catastrophe s'était produite. Tous deux furent inconsolables et moururent l'un et l'autre, le cœur brisé.
On reprend enfin ses esprits, jeune homme.
Qui êtes-vous ?
Vous ne me reconnaissez pas ? C'est moi, votre bon ami, votre compagnon de voyage, Lord Ruthven.
Que faites-vous ici ?
Disons, je me promenais dans les parages et de bonnes âmes m'ont rapporté votre histoire tragique. Apparemment, elle vous a profondément affecté. Dès que j'ai appris que vous étiez cloué au lit, j'ai pensé de mon devoir de m'occuper de vous.
Comment m'avez-vous retrouvé ?
Ce serait une longue histoire.
Depuis quand êtes-vous à Athènes ? Et pourquoi ?
Ce serait une histoire encore plus longue. Disons qu'il s'agit de la Providence, qu'en pensez-vous ?
Non, la Providence, je ne préfère pas. Elle ne m'est pas favorable.
Détrompez-vous, la roue tourne, je suis là. Je vous tiens, je ne vous lâche plus, mon ami. Ce drame a épuisé vos forces, mais vous pouvez compter sur moi pour vous remettre d'aplomb.
Lord Ruthven semblait avoir bien changé. Il n'avait plus l'air de cette créature apathique qui avait tant étonné Aubrey. Mais sitôt que le jeune homme fut remis sur pied, l'étrange personnage se replia peu à peu sur lui-même, retrouvant le même état d'esprit. Et Aubrey ne sentit point de différence par rapport à l'homme qu'il était naguère, si ce n'est qu'il avait parfois la surprise de voir son regard attentivement fixé sur lui, tandis que voltigeait sur ses lèvres un sourire d'exultation malveillant. Il ne savait pourquoi, mais ce sourire le hantait. Tandis que le malade finissait de guérir, Lord Ruthven était, semblait-il, occupé à observer les vagues de cette mer sans marée, soulevée par la brise rafraîchissante, ou à suivre la progression de ces sphères qui tournent, comme notre monde, autour du soleil immobile. En vérité, il désirait, semblait-il, ne croiser le regard de personne. Ce choc avait beaucoup affaibli les capacités intellectuelles d'Aubrey. Cette élasticité de caractère par laquelle il s'était naguère tant distingué semblait désormais s'être envolée pour toujours. Il était maintenant aussi épris de solitude et de silence que Lord Ruthven. Mais quelque grand que fût son désir de solitude, son esprit ne la pouvait point trouver dans les environs d'Athènes. S'il la recherchait parmi les ruines qu'il avait auparavant fréquentées, la figure de Yand se tenait à côté de lui. Et s'il la recherchait en forêt, la voilà qui apparaissait d'un pas léger, errant dans les sous-bois, en quête de la modeste violette. Puis, se retournant soudain, elle montrait à son imagination débridée son visage pâle et sa gorge blessée, tandis qu'un doux sourire ornait ses lèvres. Il résolut de fuir les lieux dont chaque aspect éveillait en lui de telles associations. Il proposa à Lord Ruthven de visiter les régions de la Grèce qu'il n'avait encore vues ni l'un ni l'autre. ils voyagèrent dans toutes les directions possibles, cherchant à voir tous les sites à même d'évoquer un souvenir du passé. Mais tout en se précipitant d'un endroit à l'autre, ils ne semblaient point prêter attention à ce qu'ils contemplaient. Ils entendirent beaucoup parler de voleurs, mais petit à petit, ils se mirent à dédaigner ces récits qu'ils pensaient n'être qu'inventés par des individus ayant intérêt à éveiller la générosité de ceux qu'ils défendaient contre de prétendus dangers. Négligeant de la sorte la vie des habitants, ils firent un jour un voyage accompagné seulement de quelques gardes, davantage censés les guider que les défendre. Une fois entrés dans un étroit défilé au fond duquel était le lit d'un torrent, encombré de larges blocs de rochers tombés des sommets escarpés qui l'environnaient, ils eurent néanmoins des raisons de se repentir de leur négligence. À peine en effet la totalité du groupe s'était-elle engagée dans l'étroit passage qu'ils eurent la surprise d'entendre des balles siffler à leurs oreilles, ainsi que l'écho produit par la détonation de plusieurs fusils. En un instant, leurs gardes les eurent quittés et, se plaçant derrière des rochers, ils s'étaient mis à faire feu dans la direction d'où provenaient les détonations. Lord Ruthven et Aubrey, suivant leur exemple, se mirent un instant à l'abri dans un tournant que faisait le défilé. Mais honteux d'être ainsi bravés par un adversaire qui, tout en leur criant des insultes, les sommait d'avancer et exposait qu'ils étaient à un massacre auquel ils ne pourraient résister, ils résolurent de s'élancer à la recherche de l'ennemi. Ils n'eurent pas plutôt quitté l'abri du rocher que Lord Ruthven essuya un coup de feu à l'épaule qui le jeta à terre. Aubrey se précipita à son secours et, ne songeant plus au combat ni au danger qu'il courait lui-même, il eut bientôt la surprise de voir autour de lui les visages des assaillants. Lord Ruthven, une fois blessé, ses gardes s'étaient immédiatement rendus. En leur promettant une forte récompense, Aubrey persuada les brigands de porter son ami blessé jusqu'à une cabane située à proximité. Et comme il avait accepté de payer une rançon, il n'eut plus à souffrir de leur présence. Les voleurs se contentant de garder l'entrée de la cabane en attendant le retour de leurs camarades, porteurs de la somme promise pour laquelle il avait un billet à ordre. La santé de Lord Ruthven déclinait rapidement. Au bout de 2 jours, ce fut la gangrène, et la mort semblait s'approcher à pas rapides. Ni son attitude, ni son apparence n'avaient changé. Il semblait aussi peu conscient de la douleur qu'il l'avait naguère été de ce qui se passait autour de lui. Alors que la soirée touchait à sa fin, il se mit à donner des signes d'inquiétude.
« Comment puis-je vous venir en aide ?»«
Me venir en aide ? Est-ce que je suis une personne qu'on peut encore sauver ?»«
Vous n'êtes pas si mal en point. Vous avez de la ressource. De retour en ville, nous trouverons un médecin et alors nous
pourrons... »« Je ne parle pas de ma vie. » Je me soucie aussi peu de mon existence terrestre que du jour qui passe. Mais il reste encore une chose à sauver.
Quoi donc ?
Mon honneur. Vous pouvez sauver l'honneur de votre ami.
Comment ? Dites-moi comment. Je suis prêt à faire n'importe quoi.
C'est bien ainsi que je l'entendais. Approchez.
Je vous écoute.
Je n'ai besoin que de peu de choses. Ma vie s'éloigne à grands pas. Je ne puis tout vous expliquer, mais si vous vouliez bien ne rien dire de tout ce que vous savez de moi, mon honneur serait exempt de toute tâche dans les propos que l'on tiendra sur ma personne.
Ne rien dire. Bien, c'est entendu. Mais
j'insiste. Il s'agit d'un point de la plus haute importance. Il faut que ma mort reste inconnue en Angleterre.
Vous pouvez compter sur moi.
Jurez.
Je n'ai qu'une parole.
Jurez sur tout ce que respecte votre âme, sur tout ce que craint votre nature. Jurez que pendant 1 an et 1 jour, vous ne soufflerez mot à personne de ce que vous savez de mes crimes, ni de ma mort, et ce, de quelque façon que ce soit, quoi qu'il arrive ou quoi que vous puissiez voir.
Je le jure.
Bien. Maintenant, je suis tranquille.
Lord Ruthven s'effondra sur son oreiller. 1 minute plus tard, il avait cessé de respirer. Aubrey se retira pour prendre quelque repos, mais il ne dormit point. Tous les détails concernant ses relations avec cet homme lui vinrent à l'esprit et il ne savait pourquoi. Lorsqu'il se rappela son serment, un frisson glacial le saisit, comme s'il pressentait que quelque terrible événement le guettait. S'étant levé de bonne heure, il s'apprêtait à entrer dans la masure où il avait laissé le corps de son ami, lorsque l'un des voleurs vint à sa rencontre et lui fit savoir qu'il n'y était plus. Ses camarades et lui-même, lorsqu'ils s'étaient retirés, l'avaient en effet porté au sommet d'une montagne voisine, conformément à la promesse qu'ils avaient faite à Lord Ruthven d'exposer son corps à la froideur du premier rayon de lune qui apparaîtrait après sa mort. Aubrey fut stupéfait, et prenant avec lui plusieurs de ses hommes, il décida d'aller l'enterrer à l'endroit où il gisait. Mais après être monté jusqu'au sommet, il ne vit trace ni du cadavre, ni des vêtements, bien que les voleurs jurassent qu'ils lui montraient le rocher même où ils avaient déposé le corps. Lassé du pays où il avait rencontré tant d'infortunes terrifiantes et où toute chose semblait concourir à accroître la mélancolie superstitieuse qui s'était emparée de lui, Aubrey résolut de le quitter et il arriva bientôt à Smyrne. En attendant qu'un navire le transporte à Otrante ou à Naples, il occupa son temps à ranger les effets appartenant à Lord Ruthven et qu'il avait gardés. Il y avait entre autres un coffret contenant plusieurs armes offensives plus ou moins propres à assurer la mort de la victime. Plusieurs poignards et yatagans s'y trouvaient. Tout en les retournant et en examinant leur forme curieuse, quelle ne fut pas sa surprise de trouver un fourreau orné dans le même style que le poignard découvert dans la hutte fatale, celle où l'on avait trouvé le cadavre de Yant. Il frissonna. Se hâtant de rassembler de plus amples preuves, on peut imaginer l'horreur qu'il ressentit en observant qu'en dépit de sa forme spéciale, l'arme était parfaitement ajustée au fourreau qu'il avait en main. Ses yeux, semblait-il, n'avaient besoin de nulle autre assurance, on eût dit qu'ils étaient rivés au poignard. Pourtant, il ne souhaitait toujours pas y croire. Mais la forme particulière, les teintes changeantes sur le manche et sur le fourreau, avaient la même splendeur et ne laissaient point de place au doute. Il y avait en outre des taches de sang sur les deux objets. Il quitta Smyrne, prit un bateau pour Naples et fit la route jusqu'à Rome. Quelques semaines plus tard, il arrivait à Calais. Une brise le porta bientôt jusqu'aux côtes anglaises. Il gagna vite la demeure de ses ancêtres et là, grâce aux étreintes et aux caresses de sa sœur, il sembla pour un temps oublier tout souvenir du passé. Si elle avait naguère gagné son affection par ses caresses d'enfant, elle devenait, maintenant qu'en elle la femme commençait à se manifester, une compagne plus attachante encore. Miss Aubrey n'avait point cette grâce attrayante qui, dans les salons, conquiert les regards et les applaudissements. On ne voyait pas chez elle cette brillante légèreté qui n'existe que dans la chaude atmosphère d'appartements peuplés à l'excès. Jamais son œil bleu ne trahissait le rayonnement d'un esprit frivole. Il se parait d'un charme mélancolique qui ne paraissait pas être l'effet de l'infortune, mais de quelques sentiments profonds, révélant, semblait-il, une âme sachant qu'il existe un plus glorieux royaume. Elle ne marchait point de ce pas léger qui s'égare partout où se manifeste l'attrait d'un papillon ou d'une couleur. Sa démarche était posée et réfléchie. Lorsqu'elle était seule, jamais le sourire de la joie n'illuminait son visage. Mais lorsque son frère, d'un soupir, lui disait son affection et oubliait en sa présence les chagrins dont elle savait qu'ils anéantissaient son repos, qui eût souhaité échanger son sourire contre celui d'une créature voluptueuse? Elle n'avait que 18 ans et ses tuteurs décidèrent qu'il était temps pour elle de faire son entrée dans le monde.
Ainsi, cette adorable jeune fille est votre sœur. Tout le monde n'a de regard que pour elle. Vous nous l'aviez cachée.
Elle est encore très jeune.
C'est un travers qui lui passera. Mais sa grâce ne passera pas de sitôt. Croyez-moi, je m'y connais. D'où lui vient cet air mélancolique?
Je l'ai toujours connue ainsi.
Et si innocente encore? Alors que nous vivons en un temps où l'innocence ne se porte plus.
Je veux bien vous croire.
Votre sœur a seulement besoin d'être initiée aux dangers de ce monde.
Que voulez-vous dire?
Je pourrais lui apprendre à se méfier, avec adresse.
Se méfier de quoi?
De qui, voulez-vous dire? Eh bien, par exemple, des hommes. De cet homme en particulier, qui lui parle en ce moment avec beaucoup d'ardeur. Non, ne vous retournez pas, pas tout de suite. Il regarde dans notre direction. Je le connais, celui-là, avec ses yeux gris qui vous fixent sans vous voir, comme si vous étiez transparent. Il faut reconnaître qu'il a un charme indéniable et qu'il l'exerce comme ça lui chante.
Sur ma sœur?
Sur elle ou sur bien d'autres. Elles seraient nombreuses à se damner pour Lord Ruthven. Eh bien, vous êtes tout pâle. Vous le connaissez?
À peine Aubrey avait-il eu le courage de se retourner, craignant de voir un spectre qui le foudroierait, qu'il distingua à proximité la même figure qui avait attiré son attention à cet endroit précis lorsqu'il avait fait son entrée dans le monde. Il resta à l'observer jusqu'au moment où ses jambes se dérobèrent presque sous le poids de son corps. Les détails se présentaient à lui dans un ordre effrayant. Lord Ruthven, le poignard, le serment. Il voulut se ressaisir. Il n'arrivait point à croire que cela fût possible. Comment les morts pouvaient-ils ressusciter?
Je vous prie de m'excuser. J'ai besoin d'air.
Mais je vous en prie.
Aubrey se fraya un passage à travers la foule jusqu'à l'extérieur, se jeta dans sa voiture et se fit conduire chez lui. Il pensa que c'était son imagination qui avait suscité l'image de ce visage dont son esprit ne se détachait point. Il était impossible qu'elle eût une réalité. Il résolut donc de fréquenter les salons. Car bien qu'il essayât d'interroger les gens au sujet de Lord Ruthven, le nom de ce dernier ne pouvait sortir de ses lèvres, et il n'arrivait pas à obtenir le moindre renseignement. Quelques jours plus tard, à une soirée donnée par un proche parent, il vit sa sœur entourée de plusieurs personnes qui, semblait-il, étaient en grande conversation. Il tentait de passer et de s'approcher d'elle, lorsque l'une de ces personnes qu'il priait de s'écarter se retourna et lui révéla ces mêmes traits qui lui faisaient tant horreur. Il se précipita, saisit le bras de sa sœur et, pressant le pas, la força à gagner la rue. À la porte, il se vit immobilisé par la foule des domestiques et, au moment où il s'employait à franchir cet obstacle, il entendit de nouveau cette voix qui, tout près de lui, murmurait
« Souvenez-vous de votre serment. »
Il n'osa pas se retourner. Aubrey en perdit presque la tête. Si, jusqu'alors, il n'avait eu qu'une idée à l'esprit, voilà que son obsession étendait bien plus complètement son empire, maintenant que s'imposait à lui la certitude que le monstre était de nouveau en vie. Il ne remarquait plus les attentions de sa sœur, et c'est en vain qu'elle l'adjurait de lui expliquer la cause de sa brusquerie. Il ne disait que peu de mots, et ces mots la terrifiaient. Plus il pensait, plus sa confusion était grande. Son serment l'épouvantait. Lui fallait-il donc laisser rôder ce monstre, dont le souffle portait la dévastation chez tous ceux qu'il aimait, sans qu'il pût le détourner de son chemin? Il se pouvait que sa propre sœur s'intéressât à lui, mais quand bien même il en viendrait à manquer à son serment et à révéler ses soupçons, qui le croirait?
il songea à user de sa propre main pour débarrasser le monde de ce misérable. Mais la mort, se souvint-il, avait déjà donné lieu à un simulacre. Des jours durant, il resta dans cet état, enfermé dans sa chambre. Il ne voyait personne et ne mangeait que lorsque venait sa sœur qui, les yeux ruisselants de larmes, le suppliait par égard pour elle de ne point se laisser mourir de faim. N'étant plus capable de supporter le silence et la solitude, il quitta sa maison, erra de rue en rue, impatient d'échapper à cette image qui le hantait. Il se mit à négliger sa tenue et à vagabonder, s'exposant aussi souvent au soleil de midi qu'à l'humidité de minuit. Il était devenu méconnaissable. Ayant commencé par rentrer le soir à la maison, il finit par se coucher où qu'il se trouvât pour se reposer lorsque la fatigue le gagnait. Sa sœur, qui s'alarmait pour sa sûreté, employa des gens chargés de le suivre. Mais ils eurent au fait de se laisser distancer par lui qui s'enfuyait pour échapper à la plus rapide des poursuivantes, sa propre pensée. Sa conduite néanmoins changea soudainement. L'idée lui étant venue qu'il abandonnait par son absence tous ses amis, alors qu'il y avait un démon parmi eux et qui n'était point instruit de sa présence, il décida de se montrer de nouveau dans le monde et de l'observer étroitement, tant il lui importait, malgré son serment, de prévenir tous ceux dont l'ordre Rosven se rapprochait intimement. Mais lorsqu'il entrait dans un salon, ses yeux hagards et soupçonneux étaient si saisissants, ses frémissements intérieurs si visibles, que sa sœur dut, pour finir, le prier de s'abstenir par égard pour elle, de rechercher un commerce qui l'affectait si fortement. Lorsque pourtant ses admonestations se révélèrent sans effet, les tuteurs jugèrent opportun de s'interposer et, craignant qu'il ne fût en train de perdre l'esprit, ils estimèrent qu'il était grand temps d'assumer à nouveau la charge que les parents d'Aubray leur avaient auparavant assignée. Désirant lui épargner les torts et les souffrances qu'il avait rencontrées chaque jour durant ses pérégrinations et l'empêcher de montrer aux yeux de tous les marques de ce qu'il tenait pour de la déraison, ils engagèrent un médecin qu'ils chargèrent d'habiter chez lui et de lui prodiguer des soins constants. C'est à peine s'il parut s'en rendre compte, tant il avait l'esprit obsédé d'un sujet unique autant que terrifiant. Il finit par faire preuve de tant d'incohérence qu'on le confina dans sa chambre. Il y restait souvent couché des jours entiers sans jamais sortir de sa torpeur. Il était désormais émacié, ses yeux avaient pris un lustre vitreux. Il ne lui restait comme marque d'émotion et de souvenir que celle qu'il manifestait lorsqu'entrait sa sœur. Alors, il s'animait, et lui saisissant les mains avec une expression qui affligeait cruellement la jeune fille, il la conjurait de ne jamais approcher un homme aussi néfaste. Si elle demandait à qui il faisait allusion, il se trouvait incapable de répondre, puis retombait dans un état dont on ne pouvait plus le tirer. Petit à petit, au fil de l'année, ses moments d'incohérence se firent plus rares et il se libéra quelque peu de sa tristesse, tandis que ses tuteurs remarquaient que, plusieurs fois par jour, il comptait sur ses doigts jusqu'à un certain nombre, puis souriait. Le temps assigné s'était presque écoulé lorsque, le dernier jour de l'année, l'un de ses tuteurs entra dans sa chambre et se mit à s'entretenir avec son médecin, faisant observer que c'était une bien triste circonstance pour Aubray que de se trouver dans une situation aussi terrible alors que sa sœur allait se marier le lendemain. L'attention d'Aubray fut attirée aussitôt. Saisi par l'anxiété, il demanda avec qui. Heureux de voir ainsi son intellect se réveiller, car il craignait qu'il en fût désormais privé, le tuteur cita le nom du comte de Marsden. Pensant qu'il s'agissait d'un jeune comte qu'il avait rencontré dans le monde, Aubray parut content, et il le stupéfia plus encore en exprimant l'intention d'être présent à la noce et le désir de voir sa sœur. Il ne répondit pas, mais au bout de quelques minutes, sa sœur était auprès de lui. Aubray paraissait de nouveau à même d'éprouver l'influence de son charmant sourire. Il la serra en effet sur son cœur et baisa sa joue trempée de larmes. Celle-ci coulait à l'idée que son frère était de nouveau sensible aux émotions de l'affection. Il se mit à parler avec toute la chaleur qui lui était coutumière et à la félicité d'épouser une personne si distinguée par le rang et par tous ses talents. Il remarqua soudain un médaillon sur sa gorge. Il l'ouvrit et quelle ne fut pas sa surprise de voir les traits du monstre, qui depuis si longtemps régissait sa propre vie. Au comble de la rage, il saisit le portrait et le foula aux pieds. Lorsqu'elle lui demanda pourquoi il détruisait ainsi l'image de son futur mari, il parut ne point la comprendre. Puis, lui saisissant les mains et la contemplant d'un air frénétique, il la somma de jurer qu'elle n'épouserait jamais ce monstre, car il... Mais il ne put aller plus loin. Il avait l'impression que cette voix lui ordonnait de rechef de se rappeler son serment. Il se retourna soudain, pensant que Lord Ruthven était près de lui. Mais il ne vit personne. Cependant, le tuteur et le médecin, qui avaient tout entendu et pensé que ce n'était là qu'un nouvel accès de son dérangement nerveux, entrèrent dans la pièce et, l'éloignant de force de Miss Aubrey, demandèrent à celle-ci de sortir. Il tomba à genoux devant eux, implora, les supplia de retarder le mariage, ne fût-ce que d'un seul jour. Attribuant cette attitude à la démence qui, s'imaginait-il, s'était emparée de son esprit, ils tentèrent de l'apaiser et se retirèrent. Lord Ruthven s'était présenté le lendemain de la réception à la cour, celle où Miss Aubrey avait fait son entrée dans le monde, mais on lui avait interdit l'accès comme à tous les autres. Lorsqu'il avait entendu dire que le jeune homme se portait mal, il avait compris aisément qu'il en était la cause. Mais lorsqu'il avait appris qu'on le croyait dément, ceux qui l'en avaient instruit purent aisément déceler son exultation et son plaisir. Il s'était précipité chez son ancien compagnon et, par sa présence constante, feignant d'éprouver une grande affection pour son frère et de se soucier grandement de son sort, il avait gagné petit à petit la bienveillance de Miss Aubrey. Qui pouvait résister à son pouvoir? Il sut se dépeindre comme un individu que nulle sympathie n'attachait à la moindre créature vivant sur notre terre si peuplée, à l'exception de celle à qui il s'adressait. Il sut dire que, depuis qu'il la connaissait, sa vie semblait enfin digne d'être préservée, ne fût-ce que pour lui permettre d'entendre les accents apaisants de la jeune fille. En un mot, il sut faire si bon usage de l'art du serpent, où telle fut la volonté du destin, qu'il conquit ses affections. Le titre de noblesse attaché à la branche aînée de sa famille lui étant enfin échu, il obtint une importante ambassade, ce qui servit d'excuse pour hâter le mariage en dépit du dérangement dont souffrait le frère de Miss Aubrey. La cérémonie devait avoir lieu la veille même de son départ pour le continent. Quand le médecin et son tuteur l'eurent quitté, Aubrey tenta de soudoyer les domestiques, mais ce fut en vain. Il demanda une plume et du papier, qu'on lui donna. Il écrivit une lettre à sa sœur, l'adjurant, au nom de son bonheur et de son honneur à elle, au nom de l'honneur de ceux qui gisaient désormais dans la tombe et l'avaient jadis tenue dans leurs bras, plaçant en elle leur espoir et l'espoir de leur maison, de ne retarder que de quelques heures ce mariage qui, prophétisait-il, causerait les pires calamités. Les domestiques promirent de remettre la lettre, mais ils la donnèrent au médecin, qui pensa qu'il valait mieux ne point tourmenter davantage l'esprit de Miss Aubrey avec ce qu'il tenait pour les divagations d'un fou. La nuit s'écoula tandis que ceux qui habitaient la maison se livraient à une activité fébrile. Et c'est avec une horreur qu'il est plus facile de concevoir que de décrire qu'Aubrey entendit le tapage des préparatifs auxquels on s'affairait. Ce fut le matin, et soudain, il entendit le bruit des voitures. Aubrey atteignit presque à la frénésie. La curiosité des domestiques finit par l'emporter sur leur vigilance. Petit à petit, ils quittèrent furtivement les lieux, le laissant sans surveillance. Il saisit cette occasion, d'un bond fut hors de la chambre et en un instant il se trouva dans le salon, où tous étaient réunis. Lord Ruthven fut le premier à le voir. Il s'approcha aussitôt et, lui agrippant le bras, l'expulsa en hâte de la pièce.
Mon pauvre ami, vous ne comptez pas gâcher le mariage de votre sœur.
Laissez-moi passer.
N'oubliez pas votre serment, il vous en coûtera cher.
Lâchez-moi. Lâchez mon bras, vous me faites mal.
Mal ? Vous oubliez que vous parlez à un homme qui a eu le corps transpercé d'une balle. La vraie douleur, croyez-moi, c'est autre chose.
N'approchez pas de ma sœur. Ne portez pas la main sur elle. Je veux lui parler.
Vous avez juré, Aubrey. Vous êtes lié par un serment à des forces qui vous dépassent. Sachez que si votre sœur ne devient pas aujourd'hui mon épouse, elle sera déshonorée. Et l'on verra en elle une créature perdue.
Aubrey ne tenait plus debout. Sa rage, qu'il ne pouvait point exhaler, avait fait se rompre l'un de ses vaisseaux sanguins. Les domestiques, alertés, s'empressèrent de le remettre au lit. Le médecin décida de ne pas avertir sa sœur, craignant qu'elle n'en fût agitée. Le mariage fut alors célébré, et la mariée et son époux quittèrent Londres. Aubrey devint de plus en plus faible. L'épanchement de sang fit apparaître les symptômes d'une mort prochaine. Il voulut que l'on appelât les tuteurs de sa sœur, et, lorsque minuit fut sonné, il relata calmement tout ce dont le lecteur vient d'avoir connaissance. Il mourut aussitôt après. Les tuteurs se précipitèrent afin de protéger Miss Aubrey, mais à leur arrivée, il était trop tard. Lord Ruthven avait disparu, et la jeune femme avait étanché la soif d'un vampire.
Le vampire, de John William Polidori. Adaptation, Pierre Sange. Avec Arnaud Bédouet, Brice Hilleré, Christophe Montenez, Evelyne Guimara, Rebecca Stella. Conseillère littéraire, Caroline Oisana. Équipe de réalisation, Valentin Azan-Zielinski, Étienne Collin, Manu Couturier, Vivien Demeyer, Jean-Mathieu Zande. Le vampire de John William Polidori, traduit par Alain Morvan et publié dans la Pléiade aux éditions Gallimard.